émission autour du conte proposée par Étienne Chautin et Nini Villegas pour Radio Vassivière. Vous pouvez écouter les Araignéides un mercredi sur deux à 15h et chaque dimanche à 18h. Podcaster l'émission sur radiovassivière.com.
L'ennemi redouté de Georges Bequet. Il était une fois, dans un royaume lointain perdu à l'autre bout du monde, un roi qui aimait énormément se sentir puissant. Son désir de pouvoir ne se satisfaisait pas simplement d'en avoir. Il lui fallait en outre que tous l'admirent pour sa puissance. Tout comme il ne suffisait pas à la belle-mère de Blanche-Neige de se trouver belle, lui aussi avait besoin d'un miroir dans lequel il pût se contempler pour voir chaque jour ô combien il était puissant. Il n'avait pas de miroir magique, mais il était entouré d'un tas de courtisans et de serviteurs à qui demandait chaque jour s'il était bien l'homme le plus puissant du royaume. Mais invariablement, tous lui faisaient la même réponse. « Altesse, tu es très puissant. Mais tu oublies que le mage détient un pouvoir que personne ne possède. Il connaît l'avenir. » À cette époque, alchimistes, penseurs, philosophes, religieux et mystiques étaient communément appelés mages. Le roi éprouvait une profonde jalousie envers le mage. Car non seulement celui-ci avait la réputation d'être un homme bon et généreux, mais en plus, tous l'aimaient, l'admiraient et se réjouissaient qu'il existât et vécût parmi eux. Il ne disait pas la même chose du roi. Son besoin de démontrer que c'était lui qui commandait faisait que le roi n'était ni juste, ni impartial, et encore moins bienveillant. Un jour, las d'entendre ses sujets répéter chaque fois combien le mage était aimé et puissant, ou bien motivé par ce mélange de jalousie et de crainte que fait naître l'envie, le roi manigança un plan. Il organiserait une grande fête à laquelle il inviterait le mage. Après le dîner, il réclamerait l'attention de tous. Il inviterait le mage au centre du salon. Là, il lui demanderait s'il était vrai qu'il savait lire l'avenir. Le mage aurait alors deux possibilités. Répondre que non, et ainsi décevoir l'admiration de tous. Ou répondre oui, et confirmer ainsi ce qui lui valait sa réputation. Le roi était certain qu'il choisirait la seconde option. Alors, le roi lui demanderait à quelle date, quel jour, le mage du royaume allait mourir. Le mage donnerait une réponse quelconque, peu importait. À ce moment-là, le roi avait l'intention de dégainer son épée et de le tuer. En procédant ainsi, il ferait d'une pierre deux coups. D'abord, il se débarrasserait de son ennemi juré pour toujours. Et ensuite, il démontrerait que le mage ne savait pas lire l'avenir, puisqu'il se serait trompé dans sa prédiction. En une nuit, disparaîtrait le mage et le mythe à propos de ses pouvoirs. Les préparatifs commencèrent aussitôt. Et bientôt, le jour de la fête approcha. Le spectacle fut grandiose. Des dompteurs, des acrobates et des jongleurs avaient été appelés de tous les quatre coins du royaume. Des tentures et des tapisseries superbes avait été enluminé et dressé spécialement pour l'occasion. L'air était parfumé d'un somptueux banquet que des nuées de serviteurs s'affairaient à garnir. S'y trouvaient là des mets de toutes sortes, à ravir les papilles les plus exigeantes. Tout ce que le royaume comptait de faste, de riche, de puissance et de splendeur s'étalait ce jour-là à l'initiative du monarque. Après le grand dîner, le roi invita le monarque, le mage, au centre et lui dit « Mage, est-il vrai que tu saches lire l'avenir ?»«
Un peu, »
répondit le mage. « Et peux-tu lire ton propre avenir ?»«
Un peu, » dit le mage.
« Dans ce cas, je veux que tu m'en apportes une preuve. » « Mage, je veux que tu me dises la date de ta mort. Quel jour vas-tu mourir ?» Le mage sourit, regarda le roi dans les yeux et ne répondit pas. « Que se passe-t-il, mage ? Tu ne sais pas ? » demanda le roi. N'est-il pas vrai que tu saches lire l'avenir ?
Ce n'est pas cela, répondit le mage, mais ce que je sais, je n'ose pas te le dire.
Comment ? Tu n'oses pas ?
S'exclama le roi.
Je suis ton souverain et je t'ordonne de me le dire. Tu dois comprendre qu'il est primordial pour le royaume de savoir quand il perdra ses personnages les plus éminents. Je te l'ordonne, mage. Dis-moi, à quelle date, quel jour vas-tu mourir ?
Après un lourd silence, le mage répondit « Je ne peux pas te préciser la date, mais ce que je peux te dire, c'est que le mage mourra exactement un jour avant le roi. » Un silence de mort plana sur l'assemblée. Pendant quelques instants, c'était comme si le temps s'était figé. Un murmure parcourut l'assemblée des invités. Les pensées se bousculaient dans la tête du roi. Il comprit qu'il s'était trompé. Sa haine avait été très mauvaise conseillère. Le roi avait toujours clamé qu'il ne croyait ni aux mages, ni aux prédictions, mais ce qui est certain, c'est que ce soir-là, il ne prit pas le risque de tuer le mage. Lentement, le roi baissa les épaules.
« Altesse, que se passe-t-il ? » s'enquit le mage. « Tu es tout pâle. »«
Je ne me sens pas très bien. Je vais me retirer dans mes appartements. Je te remercie d'être venu. » Lentement, las, dans un geste confus, empreint d'incertitude, le roi fit demi-tour et s'achemina, songeur, vers ses appartements. Le mage était rusé. Il avait donné la seule réponse qui lui permettait d'éviter la mort. Se pouvait-il ? Qu'il ait lu dans les pensées du monarque ? Non, la prédiction ne pouvait pas être juste. Mais si elle l'était ? Le roi était décontenancé. Il se rendit subitement compte que il serait tragique qu'il arrive un incident fâcheux au mage lorsqu'il rentrerait chez lui. Faisant subitement volte-face, le roi revint dans la salle et dit à voix haute : « Mage, tu es réputé dans tout le royaume pour ta sagesse. Je t'en prie, reste donc dormir cette nuit au palais. Je voudrais te consulter demain pour une affaire officielle. » « Majesté, c'est un grand honneur, » dit le mage en s'inclinant. Le roi ordonna à sa garde personnelle d'escorter le mage jusqu'aux appartements des invités. Et il leur demanda de rester à sa porte et de veiller à ce qu'il ne lui arrive à rien. Le roi eut beaucoup de mal à trouver le sommeil cette nuit-là. Il était très inquiet à l'idée que le mage digère mal son repas, ou qu'il se blesse accidentellement pendant la nuit, ou bien encore tout simplement que son heure soit venue. Il jamais de sa vie. Il n'aurait pensé consulter quelqu'un avant de prendre une décision. Pourtant, très tôt le lendemain matin, lorsqu'il alla frapper à la porte du mage, il lui posa tout de même sa question. Il lui fallait un prétexte. Le mage, qui était un sage, lui donna une réponse correcte, originale et juste. L'ayant à peine écouté, le roi loua sa sagesse et lui demanda de rester encore une fois, encore un jour, prétextant vouloir le consulter le lendemain matin. Évidemment, le roi voulait surtout s'assurer qu'il ne lui arrive rien. Le mage, qui jouissait de la liberté que seuls acquièrent les éveillés, accepta. Chaque jour, le roi venait consulter le mage le matin ou les après-midi, prétextant une affaire officielle. Et chaque jour, il reprenait rendez-vous le lendemain pour une nouvelle consultation. Petit à petit, il s'aperçut que les suggestions de son nouveau conseiller étaient toujours justes. Et sans s'en apercevoir, il finit par les prendre en compte dans chacune de ses décisions. Les mois passèrent, puis les années. Petit à petit se vérifia l'adage : être auprès de celui qui sait rend plus sage celui qui ne sait pas. Au fil du temps, le roi devint plus juste. Il devint plus impartial, moins autoritaire. Il cessa d'avoir besoin de se sentir puissant et, par là même, peut-être à cause de ça, de vouloir démontrer son pouvoir. Il s'aperçut que l'humilité, elle aussi, avait ses avantages. Le roi se mit à régner d'une façon plus juste, plus bienveillante. Et il advint que ses sujets l'aimèrent, comme jamais il ne l'avait aimé auparavant. Le roi ne venait plus consulter le mage pour s'enquérir de sa santé, mais vraiment pour apprendre, pour partager des décisions, ou tout simplement bavarder. Le roi et le mage devinrent d'excellents amis. Jusqu'au jour où, subitement, presque par hasard, le roi se souvint. Il se rappela que cet homme qu'il considérait à présent comme son meilleur ami avait un jour été son ennemi le plus redouté. Il se souvint du plan qu'il avait manigancé pour le tuer. Il se rendit compte qu'il ne pouvait plus garder ce secret pour lui sans se sentir hypocrite. Rassemblant tout son courage, il alla frapper à la porte du mage. « Mon frère, lui dit-il lorsqu'il ouvrit, j'ai quelque chose à te dire qui me serre la poitrine. »
Parle, mon ami, répondit le mage, et soulage ton cœur. Il y a 4 ans, lorsque j'étais invité à dîner, et que je t'ai posé la question de ta mort, en fait, je ne voulais rien savoir de ton avenir. J'avais l'intention de te tuer, quelle que soit la réponse que tu donnerais. Je voulais par là même démystifier ta réputation de devin. J'étais jaloux de toi parce que tous t'aimaient et t'admiraient. Le roi poussa un profond soupir. Ce soir-là, je n'ai pas osé te tuer. Et maintenant que nous sommes amis, et même plus qu'amis, frère, je me rends compte de tout ce que j'aurais perdu, si jamais je l'avais fait. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que je ne peux plus cacher cette infamie. Je devais tout te raconter, afin que tu me pardonnes ou me méprises, mais sans duplicité. Le mage lui répondit calmement. Tu as tardé à pouvoir me le dire, mais je suis content que tu l'aies fait, parce que c'était la seule chose qui me permettait de te dire que je le savais. Lorsque tu m'as posé la question, ta main caressait la poignée de ton épée d'une telle façon qu'il n'était aucunement besoin d'être devin pour deviner tes intentions. Le mage posa une main sur l'épaule du roi. À présent, comme juste réponse à ta sincérité, j'aimerais te dire ceci. Sache que moi aussi, je t'ai menti. J'ai inventé cette absurde histoire de ma mort avant la tienne pour te donner une leçon. Une leçon que aujourd'hui, tu es en mesure d'apprendre, et peut-être la leçon la plus importante que je t'ai enseignée. Nous allons de par le monde en rejetant des aspects de nous-mêmes ou d'autrui que nous trouvons méprisants, méprisables, menaçants ou inutiles. Pourtant, lorsque nous en prenons le temps, nous nous rendons compte de combien il nous en coûterait de vivre sans ces choses que nous avons rejetées ou méprisées à un moment donné. Ta mort, mon ami, surviendra exactement le jour de ta mort, et pas une minute avant. Tu dois savoir que je suis vieux, et que mon heure est peut-être proche. Il n'y a aucune raison de penser que ton départ doive être lié au mien. Ce sont nos vies qui sont liées, pas nos morts. Le roi et le mage trinquèrent, ensuite, s'enlacèrent, en pensant à la confiance qu'ils avaient mise dans cette relation qu'ils avaient su construire ensemble. La légende raconte que, cette nuit-là, mystérieusement, le mage mourut dans son sommeil. Le roi apprit la nouvelle de bon matin, et il se sentit empreint d'une grande tristesse. Il n'avait pas peur de son trépas, parce que le mage lui avait appris à se détacher de tout, y compris de sa permanence en ce monde. Mais il était particulièrement triste d'avoir perdu son ami le mage. Comment se pouvait-il, par quel mystère, qu'il pût raconter tout cela au mage la veille de sa mort? Est-ce que, mystérieusement, le mage lui avait permis de dire tout cela pour qu'il se libère de sa propre peur de mourir un jour plus tard? De ses mains, le roi creusa une tombe pour son ami le mage sous sa fenêtre.
Il demeura toute la journée près du monticule, pleurant comme lorsqu'on pleure alors qu'on a perdu un des êtres les plus chers. Et le soir venu, le roi regagna ses appartements. La légende raconte alors que, ce soir-là, 24 heures après la mort du mage, le roi, à son tour, mourut dans son sommeil. Peut-être par hasard, peut-être de douleur, peut-être pour attester le dernier enseignement de son maître. L'ennemi redouté de George Bucquet. Le Tao des chevaux, conte taoïste d'après la version de Pascal Folio. Jadis, dans l'antique royaume de Vei, vivait un roi qui était passionné par les courses de chars et de chevaux. Il avait fait venir des quatre coins de son royaume les meilleures bêtes et les meilleurs cochers. Et régulièrement, il concourait contre son formateur, le maître cocher. Mais toujours, malgré tous ses efforts, le cocher le distançait à chaque fois d'une bonne dizaine de mètres, systématiquement. Entrant dans une grande rage, le roi lui dit un jour : « Méprisable ingrat ! Je t'ai tiré de la misère, je t'ai couvert de soieries et d'étoffes. J'ai empli tes pioches d'or et de pierres précieuses, je t'ai fait venir à la cour, et toi, ingrat, tu ne m'as pas révélé tous tes secrets. Comment fais-tu pour toujours gagner ? »
Votre Altesse, tout ne s'achète pas. Je ne peux vous vendre le Tao des chevaux.
Le Tao des chevaux ?
Lorsque vous êtes derrière moi, vous concentrez toute votre attention et ne cherchez qu'à me dépasser. Lorsque vous me devancez, vous avez toujours peur que je vous rattrape. Un bon cocher ne doit faire qu'un avec le souffle de ses bêtes. Il doit faire le vide dans son esprit, se concentrer pour arriver à s'unir avec l'effort de ses chevaux. C'est là le Tao des chevaux. Le Tao des chevaux, conte taoïste, d'après la version de Pascal Folio.
Les araignées.
Une proposition de Tim Chotin et Nini Villegas pour Radio Vassivière.